Et donc aujourd'hui, le retour à la parole de Dieu. On est de retour aujourd'hui à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Puis aujourd'hui, on va vraiment voir ce qui concerne la parole de Dieu. Et on va voir dans Néhémie 8, le retour à la parole de Dieu. Comme j'ai dit, nous sommes tous réunis ce matin pour étudier l'importance de la parole de Dieu dans tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Et j'ai bien dit tous les jours. Parmi nous, il y a plusieurs frères et sœurs qui sont en vacances. OK? Il y en a plusieurs qui sont en vacances. On est en vacances. Nous sommes en vacances. Je suis encore en vacances. Et puis, mais le diable, le malin, n'est pas en vacances. C'est vrai? Il n'est pas en vacances. Il veut faire tomber toujours le chrétien. Il cherche toujours à nous éloigner de Dieu et nous faire vraiment tomber. Et nous avons, frères et sœurs, l'habitude d'encourager un nouveau croyant quand il vient à Jésus-Christ en lui disant que nous parlons avec Dieu quand nous prions. Nous parlons avec Dieu quand nous prions. Vraiment, avec Dieu, c'est une relation, ce n'est pas une religion. C'est une relation personnelle qu'on a avec Dieu, tous les chrétiens. Puis, nous pouvons parler avec Dieu à travers la prière. Mais comment Dieu nous parle? Dieu nous parle à travers quoi? Sa parole. Quand nous lisons sa parole. Et c'est sa parole, comme on peut lire dans 2 Timothée 3:16. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce beau dimanche, Seigneur, qu'on puisse ici être réunis, tous ensemble, pour chanter ton nom, pour vraiment te louer, pour t'adorer, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Tu es bon. Et tu es fidèle, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole qui a survécu tant d'années, Seigneur. C'est un miracle vraiment de l'avoir ici. C'est ta parole, Seigneur. Et permet qu'on puisse être, Seigneur, à l'écoute de ta parole ce matin, Seigneur. Et pouvoir la mettre en pratique aussi, Seigneur. Merci pour tous mes frères réunis. Merci pour les frères aussi qui s'est réunis ailleurs, dans d'autres églises, Seigneur. Bénis, Seigneur, ce temps-ci avec toi, Seigneur. Qu'on ouvre ta parole pour pouvoir méditer. C'est au nom de Jésus qu'on t'a pris, Seigneur. Merci encore aussi pour ton salut, hein, Jésus-Christ, parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Et la parole de Dieu, ta parole, témoigne de ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu pour nous mourir sur la croix. C'est au nom de Jésus qu'on prie, Seigneur. Amen. J'ai dit tantôt, Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que la parole vient de Dieu. Dieu en est l'auteur. Et utile pour, je pense qu'il y en a plusieurs qui le savent par cœur, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Donc, pour enseigner, c'est-à-dire enseigner la vérité. Le psaume, je pense que le psaume 119, c'est par excellence le psaume qui parle beaucoup de la parole, des commandements, la loi de Dieu. Oui, avez-vous lu dernièrement le psaume 119? Moi, dans mes lectures, j'ai tombé justement sur le psaume 119. C'est très long, mais il y a beaucoup, ça parle beaucoup de la parole de Dieu. Et donc, le fondement de ta parole est la vérité, dit le psaume 119:160. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole est la vérité. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Le psaume 12:6. Pour enseigner, pour convaincre, c'est-à-dire réfuter l'erreur. La révélation de tes paroles est claire. Au découvrir, ta parole apporte la lumière. La parole nous éclaire. Elle donne l'intelligence ou du discernement au simple, selon le psaume 119:130. Donc, pour convaincre, réfuter l'erreur. Pour redresser, corriger les fautes, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. La parole de l'Éternel est droite. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Vous connaissez ce psaume? En se dirigeant d'après ta parole. Et pas juste les jeunes hommes, hein? Nous aussi, les vieux. Comment rendra-t-il pur son sentier, son chemin? En se dirigeant après sa parole, pour redresser, utile pour redresser, pour éduquer dans la justice, pour former à une juste manière de vivre, pour éduquer dans la justice. apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. La parole de Dieu pour éduquer. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le verset 105 du psaume 119. Donc, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Le Seigneur lui-même l'a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute quoi? Parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu, selon Matthieu 4, 4. On va utiliser beaucoup la parole de Dieu aujourd'hui. Hein? Beaucoup de versets qui parlent de cette parole-là. C'est à l'occasion lorsque Jésus a été tenté dans le désert par le diable. À chaque fois, il répétait, il donnait la même réponse au diable. Qu'est-ce qu'il disait? Le Seigneur lui-même? Il est écrit. Il a cité toujours la parole de Dieu. Il est écrit. Il était lui-même, la parole lui-même, il fait ses références à la parole de Dieu. Il est écrit. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment de la parole de Dieu dans nos vies. C'est quand la dernière fois que j'ai mangé, vous vous rappelez? Quand est-ce que la dernière fois que vous avez mangé? Un matin? Avez-vous pris votre déjeuner, votre café? Oui, votre petit beigne? Des fois, il y en a qui ne déjeunent pas, là. C'est rare. Mais dans la majorité de tout le monde ici, vous avez déjà pris quelque chose à manger ce matin. Oh, OK, pas ce matin, hier soir. Pense pas que depuis 2 jours, vous ne mangez pas. Ça peut être le cas, mais depuis quand vous ne mangez pas? Peut-être quelques heures, là. Donc, on a tous besoin de manger. C'est quand la dernière fois que vous avez lu votre Bible? Quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai lu ma Bible? Sans comptant tantôt, là, quand on a ouvert la Bible. C'est bon. Je nous encourage vraiment à lire la parole de Dieu tous les jours, à méditer dans la parole de Dieu tous les jours. 1 Pierre 2,2, c'est un verset très connu qui parle « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole », c'est-à-dire le lait pur, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous quoi? Vous croissiez pour le salut. Donc, désirez comme des enfants nouveau-nés. Avez-vous déjà vu un nouveau enfant là, qui veut prendre son lait? Nous, on a eu la grâce de Dieu d'avoir 4 enfants. Et waouh, quand ils veulent vraiment prendre leur lait, là, la bouche, ça, c'est naturel, ça bouge partout, là. Puis ils veulent vraiment boire leur lait. Donc, Pierre nous parle comme ça. Désirez comme des enfants du nouveau-né la parole de Dieu. Malheureusement, frères et sœurs, nous sommes entourés de ce monde, cette société-là qui rejette Dieu. Nous sommes tous d'accord avec ça? Cette société rejette Dieu, rejette la parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu. Nous avons d'être imbibés. J'ai connu ces mots. Je ne sais pas si vous connaissez ces mots, imbibés. Je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé ces mots-là. Je suis pâtissier, OK? J'étais pâtissier. Et j'ai étudié la pâtisserie. Et c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de poids à un moment donné. Et je ne vous conseille pas d'être pâtissier. En tout cas, il faut être... En tous les cas, je suis pâtissier, j'ai étudié la pâtisserie. Moi, je suis en informatique maintenant, j'ai changé de domaine. Mais j'étais pâtissier. Et quand j'ai pris mon cours à l'Institut ici à Montréal là, pour devenir pâtissier, il y a un mot que le pâtissier toujours nous montrait. Il disait, coupez la génoise. La génoise, c'est le pain. OK. Vous aimez le gâteau?
Oui.
Oui, vous aimez le gâteau. OK, donc... Ah oui, ma belle-mère, elle dit oui, c'est vrai. Vous aimez les gâteaux, oui. Donc, les pâtissiers, quand ils coupent la génoise, le pain, là, ils disent imbiber la génoise dans le sirop. Et waouh, quand on imbibe la génoise dans le sirop, la génoise, ça goûte vraiment le sirop. Quand c'est gâteau au café, la génoise, ça goûte vraiment le café. Donc, nous avons besoin d'être imbibés dans la parole de Dieu. Comme une éponge, quand on met une éponge, là, et quand on la sort, l'eau sort partout. On a besoin d'être imbibé de la parole de Dieu pour y faire face à ce monde. Exactement ce que David déclare dans le psaume 119, 11. Qu'est-ce qu'il déclare? Je sers ta parole dans mon cœur. Afin de quoi? De ne pas pécher contre toi. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Hébreux, l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12, nous dit que le péché qui nous enveloppe, quoi? Si facilement. Le péché nous enveloppe si facilement. Et cela peut arriver quand nous négligeons, mes frères et sœurs, notre temps de lire la parole de Dieu avec Dieu, qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Cela peut arriver. Le péché peut nous envelopper si facilement. Nous prenons des décisions qui vont en contre des principes bibliques. Donc, à cause que nous lâchons, nous abandonnons la parole de Dieu. Donc, c'était très important et c'est ça vraiment que je veux qu'on regarde ce matin dans Néhémie 8. Et c'est exactement l'expérience qu'a eu le peuple d'Israël, qui a vécu à cause de la loi, à cause qu'ils ont laissé la loi de Dieu et pratiqué les coutumes d'autres peuples. Ils ont eu des conséquences néfastes. Il y a eu des conséquences pour le peuple. Ils sont allés en exil. Mais Dieu, dans sa miséricorde, suscite un serviteur. Son serviteur, quoi? Néhémie. Son serviteur Néhémie, pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et surtout, reconstruire, revenir à l'enseignement de la loi, de la parole de Dieu. Néhémie, vous connaissez tous, vous avez lu le livre de Néhémie. Il a reconstruit les murailles. On voit dans Esdras, le livre avant, que Esdras reconstruit le temple. Il reconstruit le temple et le service aussi. Mais quand Néhémie arrive, il reconstruit les murailles. Puis surtout, enseigne au peuple à revenir en l'enseignement de la parole de Dieu. J'aimerais faire plutôt emphase ce matin sur l'attitude, frères et sœurs, que nous devons avoir quand nous lisons ou entendons la parole de Dieu. Quelle attitude nous avons quand nous lisons ou entendons la parole de Dieu? Et j'ai bien dit, quand nous entendons la parole de Dieu. Si notre attitude face à ce que Dieu nous dit dans la parole de Dieu n'est pas la bonne, il ne va pas nous parler. Nous devons faire vraiment un retour vers la parole de Dieu, comme le peuple d'Israël l'a fait dans le chapitre 8 du livre de Néhémie. Allons, s'il vous plaît, dans nos Bibles, le livre de Néhémie, le chapitre 8. Cherchons le chapitre 8 de Néhémie. Vous avez tous votre Bible? Mais avant, peut-être faire un petit résumé du livre de Néhémie. Néhémie, la date de rédaction du livre, c'est à peu près dans les années 445-420 avant Jésus-Christ. Okay? Le livre de Néhémie, c'est un livre historique, une continuation de l'histoire du peuple d'Israël, et revenant de la captivité de Babylone et de la reconstruction du temple de Jérusalem. Néhémie était un Hébreu vivant en Perse. Il était un homme de prières. Il priait passionnément pour son peuple. Si vous lisez Néhémie, vous allez voir quel genre de serviteur était ce Néhémie-là, un homme de prières. Il intercède pour le peuple d'Israël. Le verset 1-3, un verset clé, là, il dit « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consommées par le feu. » Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et le chapitre 1, le verset 11, la prière de Néhémie, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Quand il parle devant cet homme, c'était devant le roi. Il voulait demander la permission d'aller. Il était en Perse, il voulait aller à Jérusalem pour reconstruire les murailles. Puis il prie à Dieu pour que ce monsieur-là, ce roi-là, il donne la permission. Et vous savez quoi? Dieu a fait un miracle. Il a donné des cartes, des lettres pour qu'il puisse passer. Il a donné même du matériel pour qu'il puisse aller. C'est juste Dieu qui a fait ça avec Néhémie. Et on voit dans le chapitre 6 que la muraille fut achevée. La muraille fut achevée dans un temps record de 52 jours, la muraille de Jérusalem. Les murailles de Jérusalem, et ça tout malgré l'opposition. Donc, encore, je vous invite encore de lire peut-être tout le livre de Néhémie. Il y a plusieurs choses que Dieu nous parle, plusieurs choses qu'on peut apprendre, mais cette fois-ci, on veut vraiment se concentrer juste dans le chapitre 8 de Néhémie. Et on va le lire. Chapitre 8 de Néhémie, verset 1. Bon, jusqu'à la fin du chapitre. Et la parole de Dieu dit comme ça. Le septième mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, les scribes, d'apporter le livre de la loi de Moïse. prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'Assemblée, composée d'hommes et des femmes, et de tout ce qu'ils comprenaient et ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du septième jour, du septième mois, pardon. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la parole du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur l'estrade de bois, dressé à cette occasion. Auprès de lui se trouvait à sa droite, se tenait Matitia, Shema, Anaïa, Uri, Ilkiya et Maseïa. Et à sa gauche, Pedaïa, Michaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et alors, il eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen ». Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Yamin, Akoub, Shabetia, Odija, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Peleia, et les Lévites, waouh, c'est des noms très difficiles, hein, les Lévites, faisaient comprendre, vous voyez tous ces gens-là, et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple. Et le peuple restait debout, encore une fois debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit, « Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à des grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, les scribes, pour être attentifs aux paroles de la loi. Ils trouvèrent écrit dans la loi de l'Éternel, que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter sous des huttes ou des tentes pendant la fête du septième mois, et qu'ils devaient faire entendre et publier une proclamation dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Sortez dans la montagne et rapportez du feuillage d'olivier, du feuillage d'olivier sauvage, du feuillage du myrte, et du feuillage du palmier, du feuillage des arbres touffus, pour faire des huttes, comme il est écrit. Alors le peuple sortit et en rapporta, et ils se firent des huttes, des tentes, chacun sur la terrasse de sa maison, dans le cour, dans le parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes. Ils habitèrent sur ces huttes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les Israélites n'avaient rien fait de pareil. Il y a eu de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant sept jours, et il y eut une cérémonie solennelle le huitième jour, selon la règle. Très intéressant ce passage-là. On remarque comment la parole de Dieu fait effet sur ce peuple d'Israël. Dans ce chapitre, frères et sœurs, nous allons voir rapidement l'attitude du peuple d'Israël envers la parole de Dieu, ou la loi dans ces cas précis. Nous allons voir et étudier cinq principes que nous devons appliquer. Et je nous encourage à l'appliquer quand nous lisons et quand nous entendons la parole de Dieu. Je parle bien « entendons la parole de Dieu » parce que nous sommes là ici pour entendre la parole de Dieu. Nous venons ici à l'école du dimanche pour apprendre. Nous venons ici à l'église des quartiers pour apprendre, pour entendre la parole de Dieu. Donc, quelle est notre attitude? Et donc, on va voir 5 principes. Être attentif, le premier, selon Néhémie, le verset 1, 8, 1, le verset 1. Être attentif à la parole de Dieu. Consacrer du temps à la parole de Dieu. Être sensible à son enseignement. La recevoir avec joie. Recevoir la parole de Dieu avec joie et la mettre en pratique. Et mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, c'est 5 principes dans ce chapitre 8. On va voir rapidement. Le premier, attentif à sa parole. Le verset 1 dit, « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme. » Comme un seul homme, c'est-à-dire unanime. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Une bonne attitude. C'est le peuple qui demanda à Esdras. C'est le peuple qui demande à Esdras, « Viens nous lire la loi de l'Éternel. » C'est eux qui demandaient à lire la loi. Mais plus tard, dans le verset 3, nous voyons la caractéristique de cette attitude-là. Le verset 3 dit, « Tout le peuple était quoi? Attentif à la lecture du livre de la loi. » Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Comme les Samaritains qui suivaient Philippe dans Actes 8, 6, il dit, les foules, d'un commun accord, comme un seul homme, s'attachèrent à ce que disait Philippe, ce que Philippe enseignait. Comme Marthe, dans Luc 10, 39, Marthe et Marie, vous rappelez, les sœurs de Lazare, ok, une, qu'est-ce qu'il faisait, une d'elles? Elle écoutait attentivement. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait le ménage. Donc, comme elle, comme Marthe, qui était attentive à la parole de Dieu. Pardon? Attentive. Oui? Marie, pardon. Comme les chrétiens de Bérée, dans Actes 17, 11, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures, comme les chrétiens de Bérée. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Nous devons être attentifs parce que c'est Dieu qui parle. Même si des hommes ont écrit la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers elle, guidé par son Saint-Esprit, selon 2 Pierre 1, 21. Paul mentionne dans 1 Thessaloniciens 2, 13, dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, Vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes. » Il parle ça comme ça aux Thessaloniciens. Vous avez accueilli la parole, non comme la parole des hommes, mais comme celle qu'est vraiment, ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, mes frères et sœurs, soyons attentifs à la parole, à sa parole. Comme ces jeunes hommes, pas comme ces jeunes hommes là dans Acte 29, vous vous rappelez le nom de ces jeunes hommes assez difficiles. Tichu, qu'est-ce qui est arrivé avec ce jeune homme-là? Il est tombé, quoi? Il s'est endormi. Quand Paul était en train de partager la parole pendant longtemps, puis ce jeune homme-là était assis au bord de la fenêtre, puis il est tombé quoi en plus? Il est tombé mort, là. Heureusement, on est dans au premier étage, il n'y a pas de fenêtre, donc tout est correct, là. Puis je ne me prends pas pour Paul non plus. Donc, mais soyons attentifs à la parole de Dieu. Quand nous sommes ici à l'église, frères et sœurs, jeunes hommes, aussi messieurs, je ne veux pas dire vieux, plus âgés, quelle est notre attitude quand on est ici pour entendre la parole de Dieu? Quelle est notre attitude le dimanche, à l'école du dimanche? Est-ce qu'on se prépare vraiment pour venir le dimanche ici? On se couche trop tard, mettons 3 heures du matin, en écoutant des films, en écoutant la musique, je ne sais pas. Puis là, ici, on est en train de s'endormir. Je ne vous observe pas. Hein. Donc, est-ce qu'on est attentif à la parole de Dieu? Consacrer du temps, deuxième principe, selon le verset 3. Consacrer du temps, réserver un temps pour la lecture de sa parole. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Combien d'heures ça fait ça à peu près là? Bon, 6 heures là. 4 heures, 6 heures. Le texte dit du matin à midi. Ils étaient attentifs. Comment ils étaient? Deux fois, c'est écrit debout. Quand même, longtemps. Sous le soleil, on ne sait pas. La Bible ne dit pas. Et sous la pluie, peut-être. Je ne sais pas, dans Néhémie. Mais ils étaient du matin jusqu'au milieu du jour. Combien d'heures je consacre à la parole de Dieu? Combien d'heures je consacre à la parole de Dieu? Et là, ça m'a fait penser, ça m'a fait réfléchir cette semaine. Justement, avant de parler, j'étais en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait étudier ce dimanche-là. Et on avait un rendez-vous avec un médecin, là, avec ma fille. J'ai deux filles, donc vous ne savez pas c'est laquelle. Et puis, le médecin a demandé, OK, et il demande toujours, hein, combien de temps il passe la télé? Dites-moi écran, parce qu'écran, c'est télé, écran, c'est ordinateur, écran, c'est tablette, écran. C'est devenu qu'écran, là, c'est tout ce qui est électronique, donc. Puis il demande, combien de temps sur l'écran? Puis là, ma soeur, ma fille répond, elle n'a pas répondu, je pense, mais en tout cas, peut-être 2 heures. Juste 2 heures, il a fait les yeux comme ça, le médecin, il a dit, « Wow, 2 heures, là, imagine, là. » Peut-être dans un an, tu aurais déjà appris une langue. Dans un an, dans 2 ans, tu aurais, « Wow, fait beaucoup de choses. » Vraiment, et c'est devenu vraiment quelque chose qui empêche vraiment qu'on puisse passer du temps avec Dieu. C'est la télé, vraiment. Les jeux, vous voyez les gens, là, qui sont toujours, même les vieux, nous, on est là aussi, que dans quelques, peut-être, années, on va avoir une nouvelle maladie, du coup, parce que tout le monde est comme ça. Puis, oui, c'est vrai, tout le monde, maintenant, on dirait, le coup, dans quelques années, tout le monde va être comme ça. Puis, des fois, on est en train de marcher, on est en train de texter. Ça m'est déjà arrivé que les gens m'ont dit, « Hey, regarde ce que tu fais. » Donc, combien de temps vous passez à lire la parole de Dieu? Et j'ai dit, c'est vrai que le médecin a dit, combien de temps je passe devant la télé? OK, j'ai fait un, comment je dis ça là? Un équilibre. J'ai dit, bon, OK. Parce que le médecin lui a dit, OK, toi, tu fais 1 heure de télé, voilà. OK, 1 heure, tu compenses 1 heure d'exercice physique. 2 heures d'exercice physique. Alors, j'ai dit, wow, elle serait championne olympique, là, si jamais elle faisait ça. Nous serions champions olympiques. Donc, combien de temps nous passons à lire, combien de temps nous consacrons à lire la parole de Dieu? Le matin, je ne veux pas vous mettre des fardeaux, frères et sœurs, je ne veux pas vous mettre des fardeaux, je ne veux pas dire, il faut lire la parole de Dieu à 6 heures du matin, à 5 heures du matin, à 4 heures, là, vous êtes debout, là, puis vous lisez votre parole. Sinon, ça ne va pas, là. Non, je vais vous dire juste combien de temps vous passez à lire, à méditer dans la parole de Dieu. Le matin, le soir, au travail, dans la voiture, lire, non, hein, ça va mal, lire dans la voiture. Par contre, l'Internet a beaucoup d'avantages, OK? Parce que maintenant, on peut écouter la parole de Dieu. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Si vous n'avez pas essayé ça, essayez-le. Downloadez dans votre téléphone la parole de Dieu, là, en audio, et vous allez avoir des heures, du plaisir. Parce que vous entendez la parole de Dieu. Et puis, vous pouvez, si vous conduisez longtemps, là, vous pouvez lire la parole, entendre la parole de Dieu. Combien de temps? Dans l'épître de Colossiens, Paul nous encourage en ces mots, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Que la parole du Christ habite en vous. Habite, ça veut dire quoi habiter là? Restez là, hein? Vous habitez où là? Vous habitez pas là pour 2 heures, 1 heure. Vous habitez pour tout le temps, là, chez vous, là. Habite. Combien de temps ça nous prend pour que la parole de Dieu habite dans nos cœurs? Ça nous prendrait combien de temps? 1 minute, 3 minutes, 10 minutes par jour, lire la parole? Non, plus que ça. Donc, je nous encourage, frères et sœurs, vraiment à passer du temps avec la parole de Dieu. Suivons l'exemple de David. David, j'aime beaucoup quand il se réfère à la parole de Dieu. Il dit dans le 119, ou 6, verset 148, « Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Consacrer du temps. Troisième principe, être sensible à l'enseignement de la parole de Dieu. Être sensible à l'enseignement de la parole de Dieu. Car tout le peuple, verset 9, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils pleuraient pourquoi, vous pensez? Parce qu'ils étaient fatigués? Peut-être, non? Non? Parce qu'ils avaient mal aux pieds? Ils pleuraient, et puis on va le voir, pas pour ça, vous allez voir pourquoi. Nous lisons aussi dans le verset 8 que d'autres lévites, et avec Néhémie et Esdras, lisaient distinctement la parole de Dieu. Ils enseignaient aux gens, ils montraient, ils expliquaient. Donc ils ont compris vraiment ce peuple-là, touché dans leur cœur, leur conscience et dans leur cœur. Et le peuple pleura en réalisant son éloignement, vraiment. L'éloignement qu'ils ont fait, l'éloignement de Dieu. Donc ils pleuraient à cause de ça, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée, à double tranchant, et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. J'ai lu la version Semeur. La parole de Dieu est quoi? Vivante. Elle est plus tranchante que toute épée, double tranchant, qui pénètre, qui nous touche. Pensez-vous, pourquoi vous pensez qu'ils pleuraient, ces gens-là? Parce que c'était juste l'émotion, à cause des chants. Ils ne chantaient même pas. Ils écoutaient la parole de Dieu pendant 11 heures. Ils ont été touchés par la parole de Dieu. Ils ont été touchés par ce que la parole de Dieu disait. Ça vous est déjà arrivé de pleurer en lisant la Bible et dire, « Waouh, je suis vraiment dans le champ. Seigneur, aide-moi parce que j'ai besoin de toi. » Donc, soyons sensibles à la parole de Dieu. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, je sers ta parole. Je pense que c'est arrivé ça au peuple juif dans ce chapitre-là. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. David, dans le psaume 119, verset 67. Quatrième principe, recevoir avec joie la parole de Dieu. Recevoir avec joie la parole de Dieu. Verset 10, il pleurait, le peuple pleurait. Mais dans le verset 10, il dit, « Car ce jour est consacré, Néhémie et Esdras disent au peuple, « Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Si la parole de Dieu laboure en touchant notre cœur, c'est en vue de produire la joie, mes frères, et la paix qui donne, qui juste la parole de Dieu peut nous donner. Malgré toutes les situations, malgré tous les problèmes soumis à la parole de Dieu, la joie de Dieu est la source et la force pour tous les croyants de tous les temps. Néhémie invite ici à chacun d'entrer dans la joie de l'Éternel. Puis les Lévites tranquillisent le peuple. Et le peuple comprend le sens de la parole de Dieu. Il se livre à des grandes réjouissances. Il se livre à des grandes réjouissances. Dans le temps actuel, là, nous sommes, dans le Nouveau Testament, nous sommes invités. On l'a chanté tantôt. Paul nous encourage. Il dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous demande. On l'a chanté là. Réjouissez-vous. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons toujours s'en réjouir de la parole de Dieu. Tantôt j'ai dit, je vois dans la Bible un homme vraiment selon le cœur de Dieu. Un homme que Dieu a utilisé, un serviteur de Dieu. C'est David qui avait vraiment compris ces principes-là, de se réjouir dans la parole de Dieu. La recevoir avec joie. Voici ce que David mentionnait en rapport avec la parole de Dieu. Et je vais lire quelques versets sur le psaume 119. Et je vais commencer par le psaume 19, versets 8 et 9. Le psaume 19. N'allez pas le chercher, je veux juste le lire. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'homme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils quoi? Ils réjouissent le cœur. » Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Comment David a compris ça? La parole de Dieu, la loi de Dieu était difficile, hein? Non? Vous savez, vous avez lu la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était difficile à accomplir, mais il était joyeux de voir recevoir la parole parce qu'il a compris vraiment que sans lui, sans Dieu, David ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il dépende de Dieu. Le commandement de l'Éternel est limpide, pur. Il éclaire les yeux. Dans le psaume 119, verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie pas point ta parole. Je fais mes délices. Je fais mes délices. » Verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » C'est bon le miel? Vous aimez le miel? Le Nutella peut-être? Plus que le Nutella, mettons. La parole de Dieu, si on veut juste... Parce que c'est vraiment... David donne des exemples pour nous expliquer de quelle façon nous devons recevoir la parole de Dieu. Il dit « Que tes paroles sont douces à mon palais. » « Je dévance l'éveil, j'ouvre mes yeux, je viens le lire pour méditer ta parole. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis dans ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » C'est l'attitude que nous devons avoir face à la parole de Dieu, la recevoir avec joie. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Cinquième et dernier principe, selon ce chapitre-là, mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Le verset 14 et 16 de ce chapitre-là. Verset 14, il dit, « Ils trouvèrent écrit dans la loi de l'Éternel, qui avait prescrit, par l'intermédiaire de Moïse. » Vous voyez là, c'est par l'intermédiaire de Moïse, mais c'était la parole de Dieu. « Que les Israélites devaient habiter sous des huttes, sous des tentes pendant la fête des sept mois. » Ils ont trouvé ça, ces gens-là, ils ont trouvé ça. « Alors, le peuple, au verset 16, dit, le peuple sortit et en rapporta, ils se firent des huttes, ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont été touchés, vous voyez tantôt là, ils ont pleuré même. Mais là, ils ont agi maintenant. Ils ont été touchés. Ils voulaient obéir maintenant à la parole de Dieu. Puis là, ils ont construit des huttes. Des hommes responsables. Des hommes qui voulaient vraiment chercher de tout leur cœur et qu'ils avaient compris l'enseignement de la loi relative au fait de tabernacle. Et voyez, Dieu utilise ce temps-là précisément dans ce moment-là. Cette fête-là tombait précisément là, dans ce moment-là, qu'ils ont recherché, retourné vers la parole de Dieu. Dieu a contrôle de tout, comme l'enseigne Job 36, 22. Qui enseigne comme lui? Job dit, qui enseigne comme lui, comme l'Éternel? Voilà la réponse du peuple. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est quoi? C'est de garder tes paroles. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Le psaume 119, 57. Vous savez, mon père, c'est un monsieur qui aime beaucoup acheter des choses, OK? Des téléphones, il achète des... La dernière chose qu'il a acheté, c'est un aspirateur, OK? Et il achète des DVD, des lecteurs de DVD, il aime les télés, il achète des télés. Il les prend, il les prend, il dit, oh, c'est bon, si c'est pas bon, il retourne. Parce qu'ici, on peut tout retourner. Hein. Donc, les gens, ils le connaissent déjà, mon père. Et on est sept enfants. Et moi, de sept enfants, moi, je suis le responsable de trouver toujours le manuel de tous leurs... En espagnol, OK? Parce qu'il me dit, Ronald, je ne sais pas comment tu fais, mais tu es vraiment bon pour trouver toujours le manuel en espagnol. Parce que tu sais, le manuel ici, c'est vendu en français ou en anglais. Mais là, il dit à tous mes sœurs et frères, je vais demander, vous ne pouvez pas trouver, c'est Ronald qui va trouver ça. Il m'appelle, prend son téléphone, je suis au travail. Ronald, j'ai besoin de ça. En espagnol, c'est télé, il me donne le modèle et tout. Moi, je trouve, et ma sœur imprime. Donc, moi, je trouve, ma sœur imprime. Le manuel. Parce qu'il veut vraiment comprendre comment ça fonctionne. La dernière fois, il a acheté un aspirateur. J'ai dit, « Papa, mais pourquoi tu as besoin d'un manuel pour l'aspirateur? L'aspirateur, tu mets en off, c'est tout, là. » Non, mais quand même, je veux savoir comment changer, en tous les cas, comment faire pour changer le filtre et tout ça. Il veut vraiment apprendre l'Emmanuel. Il veut vraiment apprendre. Il le fait de tout son cœur, là, vraiment, là. Il est là, là. Il étudie. Ma sœur, ma mère, elle dit qu'il étudie, là. Il passe du temps. Et ma mère, elle dit, oh, ton père, il reste à la maison, là. Des fois, il est un peu tannant. Vas-y, trouve-lui son manuel, là. Il passe des journées à lire. Il apprend vraiment tout, là. Il est expert avec son téléphone, là. Donc, parce qu'il aime ça, parce qu'il veut vraiment apprendre. Ça, c'est notre manuel pour pouvoir apprendre, connaître Dieu. C'est la seule façon qu'on peut connaître Dieu. Et c'est la seule façon que Dieu peut nous parler. C'est la seule façon. Mais Dieu peut nous parler, c'est vrai, je peux croire que Dieu peut nous parler. On est dans le milieu d'une jungle, puis Dieu peut nous parler. Je ne veux pas dire que Dieu ne peut pas faire des miracles. Mais ici, là, nous avons la parole de Dieu, précieuse. Et Dieu peut nous parler. Et Dieu a laissé ça pour qu'on puisse étudier, méditer. Dans quelle attitude? De le lire, de la lire juste comme ça. Puis bon, comme ça, il y en a qui font comme ça. Hein. Bah, aujourd'hui, je lis ça. C'est mon doigt qui... Puis voilà, chapitre. Bon, oh, Seigneur, je lis ta parole, c'est bon. J'ai fait ce que je fallait faire. C'est pas ça l'attitude qu'on doit lire. C'est juste nous mentir. C'est juste taire notre conscience parce qu'on ne passe pas du temps avec la parole de Dieu. C'est vraiment la lire, écouter, être à l'écoute, attentivement, et laisser que Dieu nous parle, il nous change. La parole de Dieu est vivante. C'est pas comme les livres qu'on lit, les enfants lisent des livres, je sais pas, des histoires. La parole de Dieu est vivante et utile. Amen. La parole de Dieu est vivante et utile. Donc, je nous encourage, je m'inclus aussi, mes frères et sœurs, à lire, à passer du temps avec la parole de Dieu. Ça vaut la peine. Si vous voyez, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, là, parce que je fais ça depuis 2 semaines, si vous regardez la télé une demi-heure, essayez de lire une demi-heure quand même la parole de Dieu. OK, mais là, je regarde moins la télé maintenant. Non, c'est vrai, parce qu'on a on passe du temps, des fois, et pas juste faire la télé. Il y en a qui, c'est pas la télé, il y en a qui sont les sports, il y en a qui sont le travail aussi. Bon, le travail, on a besoin de travailler, mais il y en a qui aiment le travail, il reste 3-4 heures de plus, là. OK? Puis, mes frères et sœurs, si vous faites ça, là, vraiment, c'est Dieu qui nous parle. Il change notre vie avec l'aide du Saint-Esprit. La parole a été écrite pour qu'on puisse savoir qu'on a la vie éternelle. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, ami qui vous nous visitez, sachez que la parole a été écrite pour que vous puissiez connaître, puisse savoir aussi qu'on a la vie éternelle en Jésus-Christ. On a cette vie éternelle et c'est un cadeau de Dieu. Okay? C'est par la grâce. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de bon, c'est juste par grâce que Dieu nous sauve. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau. La vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu. On ne le mérite pas. C'est un cadeau, c'est par grâce. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur, venez nous voir, venez me voir. Nous allons parler, je vais prendre le temps de parler avec vous et vous partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. En guise de conclusion, le chapitre 6, je veux juste revenir à Néhémie. Le chapitre 6 traite de l'achèvement de la muraille. Le chapitre 7 parle des précautions et les moyens mis en œuvre pour la sécurité et aussi le dénombrement du peuple pour savoir qui allait habiter quelque part. Le chapitre 8 établit l'autorité de la parole de Dieu, comme on vient de le voir. Cet ordre le plus instructif, c'est vraiment instructif là, c'est que le chapitre 8 en parle. L'autorité de la parole de Dieu. Le mur peut être bâti, le peuple peut être rassemblé, bien ordonné, mais rien ne peut assurer ça si on n'est pas connecté à la parole de Dieu. Rien ne peut assurer. Ça me fait penser au psaume 127. Si l'Éternel ne construit pas la maison, vous travaillez en vain. En vain vous travaillez, si ce n'est pas Dieu qui dirige votre maison. Au Seigneur, la prééminence, au peuple, la soumission. L'obéissance est par conséquence le chemin à la sainteté. On est séparé pour Dieu. L'obéissance à sa parole, c'est un chemin vers la sainteté. Pour nous séparer de Dieu, à tous les jours, chaque jour. Cinq principes donc, mes frères et sœurs, être attentif à la parole de Dieu, consacrer du temps à la parole de Dieu, être sensible à son enseignement, la recevoir avec joie et la mettre en pratique. Je vous laisse avec ce verset de Colossiens 3:16, que la parole du Christ habite en nous avec sa richesse. Que la parole du Christ habite en nous avec sa richesse. Amen. Amen.